toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale et associative. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices. En tout cas, avec l'équipe, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich. Nous sommes le mercredi 15 janvier et autour de la table, pour m'accompagner, Rémi et pour la première fois à la technique, Aline. Bonjour à vous deux.
Salut.
Alors Rémi, tu reçois notre invité du jour, qui est-il ?
Nous sommes en compagnie de Stan du stream Désertion. Salut à toi.
Salut, merci beaucoup de m'en savoir ici.
Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter justement le stream Désertion ? C'est quoi ?
C'est simple. Depuis un an et demi maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose à côté de mon activité principale qui est de mener le mouvement contre la chasse à courre sur Compiègne. Je me suis dit, je veux pas être connu que comme le gars qui est contre la chasse à courre. Je veux aussi, je connais d'autres choses, je m'intéresse à d'autres choses. Il fallait que je raconte ça et que je crée un média où je puisse m'exprimer là-dessus. J'ai décidé Twitch, c'était pas mal parce que il y a un format vidéo un peu sympa, un peu marrant. On peut faire des blagues, on peut prendre le temps de parler, de raconter les choses et d'avoir des invités. Et donc depuis un an et demi, sur twitch.tv/désertionstream, je reçois des invités contre la chasse à courre, pour les animaux, mais aussi des défenseurs de la paix dans le monde, des artistes. J'essaie de mélanger tout ça dans une émission sympa et marrante.
Justement, cette émission, elle prend quelle forme ? Quel type de stream tu proposes ?
Tous les mercredis à 18h, c'est-à-dire là ce soir, il y aura ça, pendant 4 heures. Je fais une émission un peu sympa avec une première heure où on parle de bagnole et on parle de dinguerie de la route et d'individualisme dans les esprits, de bétonisation du monde. Une heure après, on parle de cause animale. On va parler bien sûr de l'actu de la chasse à courre que je connais moi, mais aussi toutes les dingueries de la chasse qui se passent partout en France. On a beaucoup parlé de la fermeture de Marineland à Antibes, par exemple. Et puis des petites infos intéressantes sur les animaux. Et après, je fais un segment d'une heure sur la marche à la guerre qu'on connaît aujourd'hui avec les grandes puissances qui forment des blocs et qui sont en train de partir à l'affrontement, ce qui m'inquiète beaucoup. Et puis après, une petite heure contre-culture où on parle de sorties musicales, on regarde des bandes-annonces, on essaie de décrypter l'actu un petit peu culturelle.
On comprend, t'es quelqu'un qui est très engagé, qui est militant. Il te vient d'où cet engagement, ce militantisme ?
C'est vrai que depuis le collège et le lycée, je suis connu comme le fouteur de merde un peu, c'est vrai, mais ça fait longtemps que je suis engagé à gauche et j'essaie de trouver des moyens de me rendre utile aux gens, en fait. Et quand en 2015-2016, j'ai commencé à rencontrer des gens qui habitaient autour de la forêt de Compiègne et qui connaissaient vraiment des désagréments graves avec la chasse à courre, je me suis dit, on va créer quelque chose, et on a créé AVA, qui est maintenant un mouvement national. Et là, je me suis dit, je peux pas être le gars qui parle que de chasse à courre, je m'intéresse à plein de sujets depuis longtemps, il faut élargir. Donc j'ai créé Twitch, mais c'est que la suite de mon engagement à gauche depuis 20 ans maintenant.
Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe un petit peu du côté de la forêt de Compiègne ? C'est un engagement qui te touche et qui te parle. Voilà, c'est quoi cette histoire de chasse à courre là-bas ?
C'est simple, on est en 2024, mais il y a encore une partie de l'aristocratie en France qui se maintient. Alors, ils n'ont plus les mêmes droits qu'ils avaient à l'Ancien Régime, mais ils sont là et ils occupent le terrain. Donc, dans toutes les forêts domaniales en France, qui étaient avant les forêts royales, ils sont là, ils traquent des animaux, ils essaient donc de les tuer, de les fusiller, de les planter, de les noyer. Et la plupart du temps, comme ces gens se comportent encore comme la clique au pouvoir, ils ont eu du mal à se débarrasser de cet état d'esprit, ils vont chasser des cerfs dans les jardins des gens. La semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui a été attaqué par la meute de chiens parce qu'il promenait son chien. Ils créent des accidents de voiture tout le temps. Et donc on s'est dit, avec les riverains autour de la forêt de Compiègne, on va créer un mouvement de résistance face à ça, au moins transformer les villages en des sanctuaires où ils pourront plus rentrer et tuer des animaux et se comporter comme ils le faisaient sous l'Ancien Régime. On a réussi, on obtient plein d'arrêtés municipaux, on sauve plein d'animaux. Et là, après cette émission, on est mercredi, je vais devoir retourner en forêt. Ils sont sûrement en train de créer le boxon partout, quoi.
Toi, tu es un défenseur de la cause animale, mais on en discutait un peu en off. Il me semble qu'il y a aussi tout simplement un mouvement de riverains, c'est-à-dire de gens qui sont excédés en fait de voir des animaux abattus dans leur jardin, sur leur propriété, de voir des chiens qui produisent des accidents de voiture ou des chevaux. Tu peux m'expliquer un peu ce que ça implique justement la chasse à courre concrètement, en termes de moyens développés, d'occupation de l'espace aussi public ?
C'est simple. Une chasse à courre, il y a à peu près 150 personnes, des dizaines de 4x4 dans tous les sens. Ils ont plusieurs poids lourds pour transporter les chevaux tout le long de la journée avec le déplacement de la chasse. Ils ont une trentaine de cavaliers et donc leur but c'est de traquer un animal et donc ils vont se mettre à crier dans tous les sens et à faire traverser une cinquantaine de chiens sans contrôle, sans autre contrôle que de leur crier dessus de loin. Ce qui fait que tout le temps, ils traversent la nationale, ils créent des accidents de voiture comme il y a deux semaines, il y a eu un double accident à cause de ça. Le cerf a tapé deux voitures et il est mort, et il y a eu deux voitures complètement détruites. Et ils vont souvent, les animaux traqués vont se réfugier chez les gens, parce que les gens habitent autour de la forêt maintenant dans des lotissements, et ces gens se comportent encore comme sous l'Ancien Régime. Donc ils vont sauter ta palissade, planter le cerf dans ton jardin, et après t'offrir, je sais pas moi, du pâté de cerf en dédommagement. Et c'est encore comme ça en 2024. Et donc quand on habite autour de la forêt de Compiègne, de Chantilly, de Retz ou de Saint-Gobain, on vit ça au quotidien, et on a rencontré plein de gens qui étaient contents qu'on puisse s'organiser et créer quelque chose quand même.
Je précise, ce sont des sujets qui sont quand même importants, graves, que tu traites aussi avec humour et parfois légèreté dans ton stream. C'est pas juste un stream qui est plombant. Je vous invite à aller y jeter un œil et une oreille. Tu parles aussi d'actualité en général. Là, la semaine dernière, tu parlais de rillettes. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Riette, qui a fait quand même le tour des médias?
Ah, c'est vrai.
Et l'histoire est assez marquante, assez signifiante.
Eh ben, comme ça arrive beaucoup en France, il y a quelqu'un qui a trouvé un marcassin abandonné en forêt, ou en tout cas dans une zone où il n'était pas censé être. Donc bah, évidemment, s'emparant de son empathie, cette dame, elle l'a accueilli, elle l'a traité comme un animal un peu domestique, parce qu'elle ne trouvait pas de solution pour le placer. Quand on trouve un animal comme ça, un animal sauvage, les seules options qu'on a, c'est l'ONF, les chasseurs, la gendarmerie, et eux, ce qu'ils vont faire, c'est « Ah, bah, c'est un problème, il faut le flinguer ». Donc elle s'est rendue compte de ça, elle a essayé de le protéger, maintenant c'est devenu un gros loulou, quoi. Et heureusement qu'elle a un centre équestre, elle a plein de place pour qu'il puisse se balader, s'amuser, gratter, faire des trous dans tous les sens, sans déranger les voisins, mais ça plaît pas à la préfecture, parce que le protocole de l'État, c'est pour les animaux sauvages, on a une option, c'est les chasseurs, ils les flinguent, ils s'amusent avec, on n'a pas le droit d'en faire un animal protégé, quoi. Donc elle fait face à ça, elle fait face à la préfecture, au procureur de Troyes qui lui a demandé, on a un geste dans son sens un peu, on va pas le tuer, on va seulement le donner à une boîte qui exploite les animaux pour du cinéma. Donc elle essaie de faire face à tout ça, et elle a réussi à agglomérer des assos autour d'elle, des gens autour d'elle. La semaine dernière, elle a fait une manif avec 500 personnes, donc dans un petit bled rural, c'est quand même bien. Et là, cette semaine, il va y avoir le résultat du tribunal administratif. Est-ce qu'elle aura le droit ou pas de conserver son loulou, ou est-ce qu'ils vont venir le tuer chez elle? Ça va se décider là, dans les jours qui viennent.
Qu'est-ce que ça raconte de la façon dont on perçoit la cause animale en France et dans notre société, selon toi?
Les gens en France, ils sont de plus en plus sensibles à la cause animale, parce que les études scientifiques montrent que les animaux sont sensibles, et on découvre de plus en plus de choses vis-à-vis des baleines, des animaux domestiques, même des insectes et tout. Mais par contre, il y a des blocages au niveau des institutions, parce que l'État, pour moi, c'est un outil au service de la classe dominante qui est les capitalistes, et eux, ils ont besoin de générer du profit sur les animaux qui sont pour eux, depuis très longtemps, une ressource en fait. C'est une matière première, on voit bien dans les élevages, c'est de plus en plus intensif, et les animaux sont écrasés de plus en plus pour générer le plus de profit possible. Et donc la chasse, ça fait partie de ce business aussi. Et c'est ça en fait. On a des gens qui s'emparent de la science, de leur empathie, de leur sensibilité pour les animaux. Et en face, ils font face à des institutions qui vont toujours bloquer. Et c'est là le clash qu'on voit aujourd'hui.
Un autre de tes engagements que tu as mis en valeur en fin d'année dernière, tu as sorti une compile qui s'appelle « Guerre comme à la guerre » ou « Guerre à la guerre ».«
Guerre à la guerre ». «
Guerre à la guerre ». Qui parle plutôt de la mise au pas de nos sociétés vers la guerre. Pourquoi toi, tu as choisi de lancer ce projet justement de compile avec cette thématique?
C'est quelque chose que je vois autour de moi, et tout le monde le voit dans la presse, etc., politiquement. On voit que ça se passe, on voit qu'il y a une direction qui est prise de notre régime vers la guerre, peut-être pour résoudre les problèmes de la crise, mais on voit par exemple que Macron a lancé l'économie de guerre, on produit de plus en plus d'armes, de plus en plus rapidement, on essaie de faire revenir en loose day le service militaire avec le SNU, et les gens se plaignent pas, ils disent rien. En 2023, on a doublé le budget de l'armée en France, on a alloué 50 milliards de plus aux armes nucléaires, et les gens ne se réveillent pas, ne disent rien non plus. On va de plus en plus dans une escalade de guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire, quoi. Les gens ne se réveillent pas non plus. Et évidemment, de l'autre côté, les gens voient ça, tout le monde voit ça dans la presse, tout le monde voit, mais on voit ça comme un mal nécessaire, un petit peu, j'ai l'impression, quand je parle à mes voisins, et il fallait un petit électrochoc. Je me suis dit, faut qu'on dresse ce tableau. Bon, moi, je suis pas un grand parleur, je suis pas un grand écrivain, mais je fais de la musique, je connais des gens qui en font. On va essayer de dresser ça avec, donc j'ai demandé à tous les gens que je connaissais et leurs amis de donner des morceaux qui racontent un peu ça. Donc, à l'intérieur du pays, comment ça se passe dans la tête des gens en 2024-2025, où on voit ça et on fait rien, et aussi rappeler un peu ce que c'est vraiment la guerre, est-ce que ça pourrait être en 2025, c'est-à-dire que la première guerre mondiale, elle a fait 20 millions de morts, la deuxième en a fait 80, là on est à l'époque des armes nucléaires, il faudrait peut-être un petit peu se réveiller pour éviter une apocalypse, quoi. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire avec cette compile.
Et de ton point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour elle est dans la dynamique inverse de cette marche à la guerre. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu t'exprimes, tu prends position, c'est pour ça que je te demande.
Bah, moi, je n'ai pas de solution magique, mais c'est vrai qu'il faut quand même retenir au moins au minimum les leçons du passé. C'est-à-dire qu'en 14-18, quasiment toute la gauche, en France et en Allemagne, hein, les deux principales puissances belligérantes, s'étaient vendues et avaient voté les crédits de guerre. Il n'y avait que quelques personnes vraiment très rares. Jaurès a été assassiné sur cette ligne-là en France en 1914. Et il faudrait au moins se souvenir de ça et qu'on ait des gens au moins à gauche qui puissent voter contre les crédits de guerre et au moins parler de ça. Et je ne le vois pas du tout. Et au niveau de nous, le peuple, il faut arriver à saboter l'effort de guerre chez nous, en fait. C'est-à-dire que dénoncer tout le temps les salauds dans les autres régimes ennemis de la France, par exemple la Russie, la Chine, c'est une bonne chose, d'accord. Mais ça, ça va dans le sens du discours de guerre. Ce qu'il faut faire, c'est dénoncer la marche à la guerre chez nous et faire confiance aux Russes de le faire chez eux aussi.
Justement, donc tous les artistes que tu as décidé de lier à cette compile parlent de la guerre. Comment elle s'est fait comment elle s'est fait cette sélection? Est-ce que voilà, quelle a été ta grille finalement de critères pour te dire ok, cet artiste-là a sa place dans la compile?
C'est simple, je me suis dit il faut un projet qui parle à tout le monde, qui soit assez éclectique niveau musical, et ben j'ai quelques contacts un peu dans le monde du rap. Moi, avant de faire ce mouvement Comptage à sa cour, j'étais producteur de rap, donc voilà, que je connais un petit peu de monde. Et je me suis dit ok, on va partir de ce que je connais, je vais pas taper dans des grands artistes genre Renaud, Pomme, etc. Je vais d'abord taper dans les gens que je connais. Donc du coup, moi-même j'ai lancé le mouvement en faisant des instrus pour 3-4 rappeurs, je savais qu'ils seraient intéressés. Puis après, leurs amis, des amis d'amis, des groupes de rock, de rap, même de ragamuffin du coin se sont liés à ça, m'ont écrit, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux de Désertion, et puis on se retrouve avec 20 morceaux, une vingtaine d'artistes, de vraiment tout style, hein. On a de la variette, on a du rock un peu dur, on a du métal et tout, et avec chacun une petite vision, un petit point de vue différent sur comment ça se passe dans la tête des gens dans cette époque, ou alors ce que c'est la guerre, etc. Et on a un truc assez varié, je suis assez content de ça.
Mais je propose qu'on fasse une micro-pause musicale avec le morceau Pays de Nazi de Bill the Dog, qui est un groupe de punk hardcore amiénois. Une dédicace à Bill the Dog, qui sont des artistes qu'on soutient depuis un petit bout de temps maintenant à Radio Campus Amiens. Là, on a entendu du punk hardcore, mais comme tu l'as dit, il y a de la chanson française, il y a du hip-hop, il y a du rock, il y a plein de choses. On s'écoutera un deuxième morceau complètement différent à la fin de l'interview. C'est quoi la direction artistique que tu as voulu donner à ce projet? Est-ce que tu peux aussi nous parler de la pochette, justement?
Je voulais que ce soit varié. Je voulais que, allez, disons que si tu es intéressé par ce sujet, il y a au moins 3-4 morceaux qui te plaisent forcément dans l'album, quel que soit le style de musique que tu écoutes. Donc du coup, je suis allé voir un petit peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'était assez compliqué de faire la tracklist parce qu'il fallait que ce soit cohérent, que ça aille pas dans tous les sens. Donc la première partie, elle est plutôt rock, après plutôt rap, après plutôt électro, indus, vénère, et ça finit par une note positive. Enfin, Vous verrez ça en écoutant la compile. Et la pochette, c'est une amie à moi qui l'a faite. C'est Margot, qui fait partie du club de roller derby de Compiègne. Et j'ai vu qu'elle faisait des super dessins. Je lui ai dit, carte blanche, fais-moi un truc sombre, sale, qui rappelle la guerre moderne, en fait, avec des drones.
C'est ce que je voulais dire. On a une représentation assez moderne de la guerre, quelque chose qui pourrait nous arriver. Ouais. Et qui se passe par ailleurs déjà dans le monde, notamment en Ukraine, avec les drones. On l'a compris, toi, tu as un rapport un peu particulier à la musique. C'est quoi ton parcours dans la musique? Est-ce que tu peux nous en reparler? Tu nous as déjà dit que tu as été producteur de rap, pardon. Est-ce que tu as pratiqué aussi la musique? Est-ce que tu peux nous en parler?
Ah, quand je te dis producteur de rap, c'est que j'étais beatmaker, en fait. Donc en fait, j'avais des groupes de punk rock quand j'étais petit, aller au collège, au lycée. Et puis quand j'ai commencé à mettre la main sur des machines, sur des sampleurs, je me suis dit, ah, ça c'est mortel. Et je me suis mis à m'amuser avec ça. Donc je me suis mis à faire des instrus de rap, je sais pas, vers 2000-2001, quoi. Et j'ai commencé à me faire des petits contacts. J'écoutais beaucoup Necro, Nonfiction, Ill Bill, Jedi Mind. Et finalement, j'ai réussi à produire pour Vinnie Paz. J'ai fait des instrus pour Ill Bill et pour Nonfiction. J'ai produit pour pas mal de rappeurs américains. Et puis, ça se passait pas trop mal. J'avais même un plan pour faire de la scène. J'avais mis au point tout un spectacle où je faisais les instruments en direct avec un synthé, un pad. J'avais quelqu'un qui projetait des vidéos. Et puis, ce mouvement quand t'achètes sa cour m'est tombé dessus. Et j'ai dû abandonner ça pour cette lutte-là. C'est dommage, oui et non, en un sens. Mais quand je recroise des rappeurs américains sur Internet, ils se demandent vraiment ce que je fais, si je suis parti en cacahuète. Ils comprennent pas du tout.
Pas vraiment. Au final, t'as l'air d'avoir la même passion. C'est différent, mais en tout cas, la même passion t'anime. Est-ce que t'as découvert des artistes en élaborant cette compile? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je suis parti de des gens que je connaissais, et après, je me suis dit, allez, je sais qu'il y a une super scène sur Amiens, je vais voir un petit peu ce qui se passe là-bas, et je suis passé par mon ami Julien Hauteville, qui m'a dit, va voir tel groupe de rap, tel groupe de rock, ils sont vraiment très forts, et j'ai écrit des MP en écoutant ce qui se passait, et j'ai découvert des artistes super sur Amiens, ou même dans le sud, donc c'est... pour les auditeurs et pour moi, cette compile, c'est une aventure qui permet de découvrir des choses.
C'est quoi la suite pour cette compile? Est-ce qu'on peut imaginer justement un volume 2 ou bien un pressage ou bien des concerts? C'est quoi tes projets concernant Désertion volume 1 et Guerre à la guerre?
J'ai écrit volume 1 sur la compile parce que je me doutais bien qu'il y aurait d'autres volumes. Après, est-ce que les autres volumes seront axés cause animale ou axés guerre? Je ne sais pas encore. Le projet principal pour le moment, c'est que cette compile, ça doit être une plateforme pour lancer quelque chose. Cette histoire de guerre-là, j'ai l'impression d'être le seul à en parler comme ça. Du coup, il faut que ce soit une étincelle pour quelque chose. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est cette compile et après, peut-être, pourquoi pas, un concert sur Amiens avec quelques groupes qui ont participé à la compile. Je bosse là-dessus en ce moment. Je n'ai pas encore de date, mais je suis aussi sur Amiens pour prendre des contacts là-dessus. Il faut vraiment que ça devienne concret, que ça fasse partie de l'arsenal de la gauche aujourd'hui. Il y a tous les sujets qu'on connaît, les sujets syndicaux, les animaux, etc. Mais ce sujet de faire opposition à la guerre, là, il faut que ça devienne concret. Donc le concert, ça me paraît le meilleur moyen. C'est le projet principal de Désertion dans les prochaines semaines.
Justement, on sent que les projets, ils sont encore en construction, en réflexion dans ton esprit. Comment on fait pour suivre ton actualité et se tenir au courant justement du développement de ces projets?
Le meilleur moyen, c'est de suivre l'Instagram et le Twitter de Désertion, et c'est toujours le même handle, c'est Désertion Stream. Désertion sans accent, stream comme un stream sur Internet.
Et donc je reprécise à nos auditeurs et à nos auditrices que tu es tous les mercredis pendant 4 heures sur Twitch. À partir de quelle heure?
18h ce soir.
Donc 18h-22h, et le prochain stream aura lieu ce soir. De quoi tu vas parler? Tu sais déjà?
Je pense que je vais parler des dingueries de Trump qui pense annexer la moitié du monde. Je pense que je vais parler de dingos de la route qui foncent sur des grands-mères sur les passages piétons. Je pense qu'on va parler dans la section contre-culture de l'album de Mannequin Pussy, un groupe américain qui me plaît beaucoup en ce moment. Et cause animale, bien sûr, on va parler de ce qu'on va voir cet après-midi en chasse à cour, parce que dès que je quitte cette émission, je retourne en forêt de Compiègne pour aller ennuyer le baron de Rothschild en forêt de Compiègne, donc je vais sûrement raconter ces aventures-là dans le stream à 18h.
Eh bien, j'invite les personnes qui seraient intéressées par ces différents sujets à aller t'écouter ce soir sur Twitch, et merci d'être passé à l'antenne de Radio Campus Amiens. On va se quitter avec un morceau qui est présent sur la compile, un morceau de Cheap Wine qui s'appelle Tears Come Down From The Sky.
Merci à vous.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Info Club Sandwich. On vient de s'écouter un morceau de la compilation de Désertion Stream. C'est l'heure des actus du jour. Je commence avec une série de concerts et d'activités organisées à la Briqueterie à Amiens. Et oui, le Salle des Festes fait son grand retour. C'est du vendredi 17 janvier au dimanche 19. Ce festival, il est programmé par les musiciens de la structure en soutien à la salle de répétition où des travaux d'aménagement sont prévus. Donc on va retrouver sur ces 3 jours concerts, projections, expositions, maquillage, performances, vin chaud, crêpes et cookies. Voilà, maintenant vous avez l'eau à la bouche, c'est cadeau. Enfin bref, vous aimez rencontrer des gens, faire la fête, c'est l'occasion. Il y a plein de choses, il y a des concerts, il y aura Mario Day, Toby Wolf, Nuage Rose, j'en passe. Et du côté de l'organisation, vendredi c'est dès 19h et pour le samedi et le dimanche, l'entrée est à 17h. Le prix est libre, alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que chacun et chacune donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut. C'est sans jugement et c'est pour permettre à tout le monde de venir profiter de ces événements. Si vous voulez découvrir le programme en entier, c'est sur le site briquette.fr ou sur les réseaux sociaux de la briqueterie. Et si vous préférez le calme d'un musée, ça tombe bien, le musée de Picardie d'Amiens, vous propose une série de conférences sur le thème de la peinture italienne de la Renaissance au Rococo. On vous en avait déjà présenté une le 9 janvier dernier, mais il y en a d'autres proposées entre le 16 et le 30. Alors maintenant, on retrouve une conférence sur... Demain, on retrouve une conférence sur Caravage et le caravagisme. Le 23 janvier, c'est le classicisme et baroque dans l'Italie du Seicento. Et le 30 janvier, attention, je prends mon accent italien, Rococo vedute neoclassicismo le Settecento. Toutes ces conférences sont gratuites, sans réservation, et se déroulent dans l'amphithéâtre Jean Cavaillès à l'espace de Wailly. Elles commencent à 18h30 et toutes les infos sont sur le site du musée de Picardie. Je termine cette série d'actu avec un petit rappel. Ce 23 janvier marque la fin des inscriptions pour le tremplin Pulsation. Alors qu'est-ce que c'est ce tremplin Pulsation ? C'est un concours organisé par le CROUS pour permettre aux nouveaux talents de se découvrir. Pour participer, il faut être un étudiant seul ou un groupe composé au moins pour la moitié d'étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français. Il faut enregistrer entre 3 et 6 titres originaux et pour déposer vos morceaux, c'est sur la plateforme dédiée via l'icône Concours Création étudiante disponible sur Mes services étudiants. Et dernier point, il faut être disponible pour les phases finales nationales si vous êtes sélectionné, qui se déroule à Bordeaux. Donc pour candidater, vous avez jusqu'au 23 janvier. Une dernière info pour clôturer cette émission, on vous propose pendant 4 semaines de découvrir Prépanorama, une série de capsules sur les prépas à Amiens. Elles ont été réalisées par une bénévole et ancienne service civique de Radio Campus, Jasmine. Et voilà, on s'écoute ça juste après Angry Inch du groupe Hedwig and the Angry Inch, une comédie musicale qui s'est produite sur scène la semaine dernière à la Comédie de Picardie. Voilà, c'est la fin d'Info Club Sandwich, on vous dit à demain, aux mêmes heures. Operation got botched. My guardian angel fell asleep on the watch. Now all I've got is a Barbie doll crotch. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. I'm from the land where you still hear the cries. I had to get out, had to sever all ties. Change my name and assume the disguise. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. The train is coming and I'm tired of the track. I try to get up but I can't get no slack. I got an angry inch. Angry inch. My mother made
station. I was bleeding down there. I was bleeding from the gash between my legs. My first day as a woman, and already it's that time of the month. 2 days later, the hole closed up. The wound healed, and I was left with a one-inch mound of flesh. Where my penis used to be, where my vagina never was. It was a one-inch mound of flesh with a scar running down it like a sideways grimace on an eye. Just a little bone.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens. En ce début d'année scolaire, nous vous proposons, après BTS Que Choisir, sortie en avril 2023, la série Prépanorama. Cette émission elle a pour objectif de vous présenter les différentes classes préparatoires à Amiens et ses alentours, afin de vous informer avant l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Pour ce faire, nous irons à la rencontre des professeurs qui nous expliqueront en quoi consiste leur formation, ainsi que des étudiants qui évoqueront leurs ressentis au sein de leur CPGE. Pour la première partie de cet épisode, nous sommes avec Monsieur Dezotti, professeur de physique-chimie, afin de présenter la filière technique et sciences industrielles au lycée Louis Tullier à Amiens. Bonjour.
Bonjour.
Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, la classe préparatoire TSI ?
Donc c'est une classe préparatoire en 2 ans, donc qui se forme au lycée, donc ici en l'occurrence au lycée Tuilier. Le but c'est d'intégrer par la suite une école d'ingénieur en 3 ans pour avoir le diplôme d'ingénieur qui équivaut à un bac plus 5 à la fin.
Et du coup la durée de la classe préparatoire c'est 2 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et vis-à-vis des matières qui sont étudiées ?
Alors il y a 3 matières principales, les mathématiques, la physique-chimie et les sciences industrielles de l'ingénieur. Et en plus de ça, il faut additionner un petit peu de français, d'anglais, d'informatique et également le TIPE qui est un projet que développent les étudiants au cours des 2 années.
Est-ce que vous connaissez un peu le volume horaire des étudiants justement ? Le volume horaire de l'emploi du temps par exemple ?
Alors c'est une trentaine d'heures dans la semaine, 30-35 heures. Donc la première année c'est réparti sur 5 jours dans la semaine et la deuxième année il y a les 5 jours plus le samedi matin où il y a des contrôles pendant 4 heures.
Justement, vous parlez de contrôle. Comment sont préparés les étudiants aux examens ? Est-ce qu'il y a des oraux blancs ? Est-ce qu'il y a des examens blancs ? Comment ça se passe ?
Alors, donc, les épreuves pour entrer dans les écoles d'ingénieurs sont composées d'écrits et d'oraux. Donc, au fur et à mesure de l'année, on va les préparer à la fois aux écrits, donc avec les contrôles tous les samedis matins pendant 4 heures. Donc là, c'est des exercices assez classiques à résoudre en maths, en physique, en sciences industrielles de l'ingénieur. Et après, au niveau des oraux, par contre, il va y avoir aussi une préparation aux oraux au cours des 2 années, où on va avoir des calls, donc c'est des interrogations orales pendant 1 heure. Donc tout au long de l'année, les étudiants vont l'avoir 2 ou 3 par semaine, de manière à se préparer justement à présenter ça aux oraux des concours.
Et justement, pour les futurs étudiants qui souhaiteraient venir pour les lycéens, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un processus par Parcoursup ? Et est-ce que c'est tous les bacs qui sont acceptés en TSI ?
Alors, la TSI, c'est une classe préparatoire qui est un peu spéciale, puisqu'elle est réservée justement aux bacheliers technologiques, donc qui viennent de STI 2D et de STL. Après, l'admission se fait par Parcoursup, comme toutes les autres classes préparatoires, c'est-à-dire il y a un dossier qui est déposé avec une lettre de motivation. On va faire un tri dans les dossiers, un classement, et au fur et à mesure, il va y avoir des appelés.
Et vis-à-vis des dossiers, est-ce que vous avez des profils que vous allez rechercher en particulier ?
Alors on cherche des profils assez équilibrés dans toutes les matières, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être très bon en maths ou très bon en physique pour intégrer une classe préparatoire, mais plutôt être polyvalent dans toutes ces matières, sachant qu'au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, il y a justement toutes ces matières qui vont être présentées. Donc le mieux, ça reste d'avoir un profil équilibré, bon, voire très bon en terminale.
Vis-à-vis de la capacité d'accueil, combien il y a de places en première année ?
Alors on a une 30aine de places disponibles et on arrive à peu près à trouver 30 élèves tous les ans dans notre formation.
Ensuite, j'aimerais parler un peu de la méthode d'enseignement. Donc, quelles méthodes pédagogiques sont utilisées dans la classe préparatoire ? Je pense notamment au fait, alors c'est pas forcément comme en licence, il n'y a pas forcément de cours magistraux, mais est-ce qu'il y a quand même des cours, des TD et des TP par exemple ?
Alors oui, ça ressemble en fait à ce qu'on retrouve au lycée, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours avec des TD, donc c'est-à-dire des exercices qu'on va faire par la suite, des TP également en physique-chimie, en sciences industrielles de l'ingénieur, en informatique. Donc on va retrouver vraiment quelque chose qui est très proche à ce qu'on retrouve dans un lycée classique au niveau de la formation, en plus duquel on va avoir donc le TIPE, c'est-à-dire le projet à préparer, ainsi que l'école, donc les présentations orales au fur et à mesure de l'année.
Justement, vous parlez de TIPE, donc comment ça se passe? Est-ce que c'est un projet qui est présenté par l'étudiant ou c'est les enseignants qui proposent justement des projets et c'est les étudiants qui...
Alors, il y a un thème qui est donné au niveau national, en fait, qui est relativement large. Donc, à partir de ce thème-là, on va pouvoir réussir à trouver n'importe quel sujet qui sera en rapport. Donc, c'est vraiment l'étudiant qui a envie de développer un projet, quelque chose qui, voilà, c'est en lien avec ses loisirs ou avec ce qu'il aime. Et donc, il va pouvoir développer ça au cours de l'année pour le présenter ensuite à l'entrée à l'école d'ingénieur.
Vis-à-vis de la préparation concours, du coup, on parle d'une préparation en 2 ans. Mais comment ça se passe concrètement, cette préparation? Qu'est-ce qui va, par exemple, différencier la première année de classe préparatoire de la deuxième année? Est-ce qu'il y a une charge de travail plus importante, un volume horaire plus important, peut-être même plus d'oraux ou, je ne sais pas, d'examens écrits?
Alors, c'est relativement symétrique, on va dire, sur les 2 années. C'est juste que, au cours de la deuxième année, par contre, l'année va se finir un peu plus tôt. C'est-à-dire que, étant donné que les écrits vont arriver pour les concours au niveau du mois d'avril, donc même un petit peu avant, on va devoir finir le programme un petit peu avant, donc c'est-à-dire en février, voire mars. Donc, ça fait une année qui va être peut-être un peu plus chargée au niveau de la deuxième année en termes de quantité. Mais bon, ça reste 2 années qui sont assez chargées, quoi qu'il arrive, parce que ça reste une classe préparatoire.
J'ai entendu parler du fait qu'on pouvait cuber ou recuber, je crois.
Alors, cuber, c'est-à-dire redoubler sa deuxième année dans le cas où on n'arrive pas à avoir l'école d'ingénieur qu'on visait. Donc, on peut en avoir d'autres, des concours. Mais si jamais il y a une école en particulier qu'on vise et qu'on n'a pas réussi à la voir la première fois qu'on l'a tenté, donc en deuxième année, on peut cuber, c'est-à-dire recommencer de sa deuxième année de manière à retenter le concours et essayer de l'avoir. Et souvent, bon, avec un peu de travail, on arrive à avoir l'école qu'on voulait en cubant.
Pour peut-être avoir plus d'informations, peut-être plus de détails même sur la filière, est-ce que vous savez si le lycée Louis Tullier fait des portes ouvertes?
Alors oui, on fait des portes ouvertes 2 fois dans l'année, donc deux matinées dans l'année. En plus de ça, on peut venir discuter avec nous donc aux différents forums. On a en particulier participé au salon de l'étudiant et au salon Studirama cette année.
Et vous savez aussi si on peut faire des stages d'immersion ou venir une journée en tout cas?
Alors oui, il y a ce qu'on appelle des bancs d'essai. Donc pendant une journée, les élèves qui sont en terminale, donc STI 2D ou STL, peuvent venir dans la classe préparatoire TSI, voir ce que ça fait une journée en immersion, participer aux cours, discuter avec les professeurs, discuter avec les élèves de la formation. C'est possible.
Et on a parlé de la formation, mais il faut aussi parler des débouchés et des perspectives. Donc qu'est-ce qu'on peut concrètement avoir, par exemple, comme école quand on fait une classe préparatoire de TSI?
Alors on peut intégrer quasiment toutes les écoles d'ingénieurs de France qui vont recruter des élèves de TSI. Donc on a 100 en gros d'écoles d'ingénieurs en France, aussi bien des écoles généralistes, donc qui vont former des ingénieurs généralistes, ou ça peut être donc quelque chose de très général, ou alors à l'inverse, c'est quelque chose de très spécifique, donc je ne sais pas, peut-être des écoles d'ingénieurs dans l'optique, dans l'informatique, dans la mécanique, il y a vraiment tous les profils qui sont possibles, et donc ça se discute au fur et à mesure de la seconde année avec nous, et l'élève en fonction de ce qu'il a envie de faire. Les 2 années donc en classe préparatoire équivalent aux 2 premières années de licence à la fac, c'est-à-dire qu'on a les crédits ECTS qui correspondent à ces 2 années. On peut donc intégrer une 3e année à la fac ou alors une école d'ingénieur ou toute autre filière possible, voire même à l'international, étant donné que les crédits ECTS sont aujourd'hui reconnus à l'international. Donc ça équivaut à 2 années dans le cadre d'une formation supérieure.
Et justement, vous connaissez un peu peut-être les perspectives professionnelles de vos élèves, parce qu'on parle d'école d'ingénieur, mais je pense que c'est beaucoup plus divers vis-à-vis des professions.
Alors effectivement, ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire à la fois, c'est-à-dire principalement un diplôme, un bac plus 5, avec une formation technique, c'est-à-dire une formation scientifique. Mais en plus de ça, en école d'ingénieur, ils vont avoir après par la suite des formations de management, des formations un petit peu économiques. Donc il y a vraiment plein de possibilités qui sont offertes à travers les écoles d'ingénieur, et donc c'est un choix qui va se faire au fur et à mesure de ses études pour l'étudiant. Mais justement, la classe prépa TSI, ça reste quelque chose de très général, et c'est par la suite qu'il va se spécialiser.
Et est-ce que vous avez le retour d'anciens élèves qui viennent par exemple à Louis Tullier pour présenter leur carrière ou bien leur scolarité?
Alors du coup, on a 2 anciens étudiants qui sont arrivés cette année, donc qui sont passés par la classe prépa TSI. Donc on a par exemple Alexandre qui a intégré l'école des arts et métiers à Châlons-en-Champagne il y a quelques années. Il a ensuite fait par exemple un double diplôme en master en aéronautique à Bordeaux et il est aujourd'hui ingénieur. Il travaille pour Airbus à Maule, donc près d'Albert. On a également une autre étudiante, donc Clémence, qui a, elle, intégré l'école des mines de Saint-Étienne il y a 3 ans et qui travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur produit en CDI à Thalès. Elle gère l'industrialisation des passeports et des cartes d'identité, par exemple.
Et justement, pour terminer, est-ce que vous auriez par exemple des conseils à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient venir en TSI ou même aux futurs étudiants en général ?
Alors, je pense qu'il faut avant tout être motivé, se dire qu'il faut être prêt à faire des études donc qu'on appelle longues, c'est-à-dire au moins 5 ans. Mais à partir de là, il n'y a rien d'impossible à intégrer une classe préparatoire. C'est-à-dire que du moment qu'on travaille et qu'on fournit un travail sérieux au cours des 2 années, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avoir une école d'ingénieur par la suite et son diplôme d'ingénieur quelques années après.
Eh bien, merci.
Merci.
Nous étions avec Monsieur Dezotti, professeur de physique-chimie, afin de présenter la filière technique et sciences industrielles au lycée Louis Tullier. C'était le premier épisode de Prépanorama, une production réalisée en partenariat avec la mission d'enseignement supérieur, recherche et innovation d'Amiens Métropole. À bientôt.